Alors, donc, pour Capra, j'étais partie d'un petit peu un contexte de Capra cinéaste dans les studios, sa filmographie, etc. Et ensuite, j'avais relié plus le contexte sociopolitique à Smith à travers cette question des grands travaux rooseveltiens, etc. Là, je dirais, j'ai envie plutôt de faire une approche inverse sur le film et vous donner quelques éléments de contexte sur la Bulgarie à l'époque, parce que, mais tout ça, évidemment, en lien avec le film qui peut être bien sûr reçu à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qui peut évidemment être reçu aussi hors contexte, mais quand même, c'est pas tout à fait, enfin, c'est même pas du tout, enfin, ça me semble quand même intéressant de quelques points sur la Bulgarie pré-communiste et communiste. Donc, Binka Jeliaskova, pour vous la situer dans les générations, elle avait 20 ans pendant la guerre. Quand je dis la guerre, je dis la Deuxième Guerre mondiale. Elle était née en 23, elle est morte en 2011. D'ailleurs, Jeliaskova, parfois vous le trouvez écrit avec ZH selon les transcriptions du cyrillique. Voilà, parfois c'est ZH, le J est quand même plus pratique. Donc, sur la Bulgarie, à l'époque, non pas à l'époque du tournage, qui est. Le film est tourné en 1961, mais à l'époque de l'action du film. C'est ça qui me semble important, c'est-à-dire, si on comprend bien le film, plutôt en 42-43. Pourquoi on peut situer ça en 42-43? Parce que au printemps 41, donc c'était une monarchie, hein, la Bulgarie, et en fait, la Bulgarie enfin, adhère au pacte tripartite, c'est-à-dire qu'elle rejoint les forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Donc elle est du côté de l'Allemagne à partir de mars 1941. Mais en même temps, elle ne s'associe pas directement à l'attaque Barbarossa dans les Balkans de l'Allemagne nazie contre l'URSS. C'est-à-dire qu'elle reste non pas neutre, hein, pas du tout neutre, mais en tout cas, elle sert de base d'opération, mais disons qu'elle n'est pas... elle n'opère pas militairement à ce moment-là. Sauf que... Très, très vite, au bout de quelques mois, il y a un mouvement de résistance à l'intérieur de la Bulgarie qui se crée, de résistance communiste. Les partisans bulgares, on emploie le mot dans le film, hein, partisans, qui va à la fois lutter contre la monarchie, contre le roi de Bulgarie et contre les Allemands. Et disons, c'est créé par un activiste qui, lui, est basé à Moscou. Et donc, en fait, ce mouvement co commence à organiser des actes de sabotage. Et puis, donc, ils sont dans les montagnes, il y a une sorte de maquis. Bon, on le voit, hein, d'ailleurs, à un moment, il y a une séquence où ils sont plus... vraiment, on voit que c'est celui qui est vraiment dans les montagnes. Alors, déclaration de l'URSS à la Bulgarie le 5 septembre 1944. Mais vous voyez qu'il y a une sorte de... En parallèle... Le mouvement de résistance provoque une insurrection le 9 septembre 1944, qui aboutit donc à un coup d'État qui va renverser la monarchie. Dans les insurgés, il y a, je pense, une majorité de communistes. En tout cas, il y a des communistes, mais il y a aussi des sociaux-démocrates. Donc vous voyez que c'est voilà, ces deux mouvements intérieurs-extérieurs. Ce qui fait que... L'URSS, enfin l'armée rouge, entre dans Sofia le 16 septembre 1944 et va occuper la Bulgarie. Ce qui fait que donc, à cause de cette insurrection interne à la Bulgarie, ils vont se retourner contre l'armée allemande de septembre 1944 à la fin de la guerre, en mai 1945. Donc vous voyez, ils commencent du côté des Allemands et... Ils finissent par l'insurrection intérieure contre l'Allemagne. Et puis donc ensuite, ils vont signer l'armistice avec l'URSS en octobre 1944. Donc bref, en 1946, il y a une sorte de référendum qui va entériner la fin de la monarchie et le début de la République. Ce qui veut dire que... comment dire? Ce qui veut dire que Jeliaskova... Alors, Jeliaskova elle-même, elle a participé à ce mouvement de jeunes communistes quand elle était encore lycéenne. Parce que je vous dis qu'elle était née en 23, donc elle avait 19, ouais, c'est ça, 19, 20 ans, même 18, 19 ans. Et elle est communiste, elle est restée communiste, je dirais, jusqu'à la fin de sa vie, y compris après la chute du mur. Donc, ça donne quand même quelques éléments sur ce mouvement de jeunesse, mais aussi sur le fait que le film est en partie autobiographique, d'une certaine façon. C'est important parce qu'il y a une forme d'intimité, on en reparlera, créée par la façon dont les personnages sont représentés et qui est liée à cette origine biographique. Alors, c'est un peu compliqué la notion de liberté artistique dans les pays, y compris dans les pays communistes, mais je voulais vous apporter quand même deux photos, même si ça c'est beaucoup plus tard, de la cinéaste, parce que... Alors, elle a fait 9 films en tout, dont je crois, j'avais noté, donc 4 interdits, dont celui-ci. Et en fait, celui-ci de 61, il a été tourné après 5 ans d'interdiction. Parce que son premier film, qui ressort aussi, hein, qui s'appelle « La vie s'écoule lentement », qui date de 1956, qu'elle a co-réalisé avec son mari, parce qu'elle travaillait avec son mari qui, lui, avait étudié le scénario au VGIK, vous savez, la grande école de cinéma soviétique, enfin de Moscou. Donc, il co-réalise ce film qui s'appelle « La vie s'écoule lentement ». Alors, on a beau être à la période qu'on a appelée la période du dégel, c'est-à-dire les 10 années après la mort de Staline en 53, on a beau être au milieu des années 50 dans cette période de dégel autour de Khrouchtchev, en réalité... La vie s'écoule lentement, pose quand même problème aux autorités. Pourquoi ? Parce que justement, c'est l'histoire d'un groupe de résistants, de partisans, mais beaucoup plus armés, disons, et adultes que ceux qu'on voit dans ce film-là. Au tout début, on les voit faire leurs actions de guerre et de résistance contre l'occupant. Et puis, ensuite, on voit leur retour, j'allais dire, à la vie civile. Enfin, on voit leur retour après la guerre et on voit que c'est pas facile. C'est pas facile pour eux, ceux qui ont pris un peu un goût du pouvoir et qui retournent un peu leur veste, ceux qui sont désorientés, désœuvrés, etc. Et donc, finalement, c'est pas du tout un film... comment dire, qui glorifie le mouvement de résistance et qui le relie avec une solidarité plus dans un esprit communiste. C'est beaucoup plus compliqué que ça, d'où le fait qu'elle va être interdite de tournage pendant 5 ans parce que le cinéma s'est nationalisé après-guerre. Donc quand elle commence à... Quand elle, venue de ses études théâtrales, Jeliaskova, elle commence à faire du cinéma, c'est dans une industrie qui est déjà étatisée. À partir de 48. Donc, elle est dans la Bulgarie communiste et donc on peut pas être cinéaste sans être d'une certaine façon cinéaste d'État. Vous voyez, l'industrie du cinéma, elle est nationalisée. D'où le fait que l'État peut aussi, interdire les cinéastes de. Mais en fait, il se passe un truc pour Nous étions jeunes, c'est que là encore, le film est interdit, sauf que. Comme il a eu un prix, comme il a voyagé en festival avant même sa sortie et qu'il a eu une médaille d'or à Moscou, du coup, ils ne peuvent pas complètement... Ils sont un peu gênés aux entournures de la censurer. Donc voilà, elle va comme ça continuer à faire du cinéma. 9 films en tout, ce n'est pas énorme. Moi, je n'ai vu que donc La vie s'écoule lentement, que je recommande, qui est intéressant. Et puis son film de 67, Le ballon attaché, qui ressort aussi, qui a été restauré, et qui est plus une sorte de fable. Sur des paysans qui voient arriver une sorte de dirigeable. C'est à la fois drôle, mais à la fois plus, voyez, allégorie du genre les films tchèques, les comédies tchèques des années 60. Bon, voilà, un peu trop allégorique à mon goût. Et à la limite, je préfère un film qui a un régime plus dans l'entre-deux, entre le réalisme historique et une force poétique comme celui-ci. Bon. Pour ce film-ci, je pense que c'est intéressant de repartir, non pas du début, mais de quand même de se reprojeter dans le détail une séquence et qui n'est pas exactement le tout début du film, mais qui est le moment de la rencontre. Bon, elle est assez... je pense que ça peut être un bon point de réentrer dans le film, cette séquence de la rencontre. Bon, d'abord, comme je l'ai dit, le film, il est co-écrit par un couple, hein, par la cinéaste et son mari. Mais surtout, Parce que, en fait, c'est une sorte de programme sur l'incroyable liberté formelle, je trouve, du film. Bien sûr qu'il est narratif, bien sûr qu'il raconte quelque chose, mais en fait, je trouve étonnant qu'on commence avec cette plongée sur la ville et ce mouvement quasi panoramique sur les différents immeubles pendant la guerre. Donc on pourrait dire ça, c'est un mouvement d'exposition, ce type de mouvement de caméra et de plan d'ensemble qui fait comme ça le tour, hein, la caméra qui pivote en un panoramique. On est familier de ce type de mouvement au début d'un film, avec poursuivi par le mouvement de panoramique vertical vers le bas quand on comprend que c'est une ville occupée, puisqu'il y a la bannière avec la croix gammée. Donc tout ça est, j'allais dire, une forme d'exposition un peu habituelle, sauf qu'elle est sans aucun commentaire, elle est purement visuelle. Mais en fait, il y a quelque chose assez vite de plus complexe, parce que la ville est complètement déserte, et ensuite parce qu'on entend tout de suite que les bruits des pas sont complètement rebruités, enfin qu'il y a quelque chose de non naturaliste dans le traitement sonore qu'on venait de voir avant avec les volées d'oiseaux du point de vue du montage. Hein. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose. On est à la fois à un niveau quasi documentaire, puisqu'on voit des ruines. Ça fait penser d'ailleurs au film, par exemple, de Rossellini, Allemagne année zéro. Hein. Rossellini rentrant dans Berlin juste après-guerre, étant tellement frappé par la vue des ruines qu'il décide de faire une fiction, mais très documentaire. Et ce sera Allemagne année zéro sur un petit garçon qui est un peu désœuvré, disons, dans cette ville. Donc voilà, une fois qu'on voit les ruines, on se situe, mais on se situe aussi dans un espace de cinéma plutôt documentaire. Or, donc, il y a une sorte de raréfaction du son qui est créée par le fait que les pas sont rebruités. Et puis ensuite, vous vous souvenez, à un moment, la musique de fosse, la musique rajoutée en post-production, commence à monter au moment où on a les plans rapprochés, même les inserts, ce qu'on appelle des inserts, les gros plans sur je veux dire, l'arme de chacun des deux duellistes, à savoir quelque chose de très genré quand même, c'est-à-dire la fleur. Donc on comprend que c'est une sorte de signe de reconnaissance, la fleur pour la jeune fille et le journal roulé pour Dimo, le garçon. Mais là encore, bizarrerie d'une certaine façon et grande liberté, on ne se contente pas de plans de grand ensemble pour signifier l'exposition, pour faire comprendre où on est, même historiquement. En fait, tout à coup, se transforme au cours de la séquence, me semble-t-il, le côté informatif de ce type d'échelle de plan se transforme en autre chose qui est presque de l'ordre du western. Enfin, même carrément, la référence visuelle et même musicale, c'est le western, de manière consciente, je pense, de la part de la cinéaste, avec ce mouvement convergent des personnages chacun l'un vers l'autre et une utilisation assez appuyée du montage alterné. Donc, en fait, le plan de très grand ensemble, quand ils sont chacun à une diagonale, à un bout du plan, devient un plan plutôt qui se réfère au western, c'est-à-dire qui nous fait penser plutôt à une fiction très fictionnée, pour le coup, et pas du tout documentaire. Ensuite, là où il est paradoxal, où cette rencontre amoureuse est un peu paradoxale, c'est que donc ça va être une rencontre amoureuse. On voit bien qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du flirt, mais en même temps, elle est codifiée par le fait que c'est d'abord une rencontre de résistance avec des signes de reconnaissance. Et puis l'autre particularité qui fait que cette séquence, elle va programmer vraiment tout le reste du film, aussi bien formellement que dans les relations entre les personnages, c'est ce côté raté, c'est le côté maladroit, le fait qu'elle a presque le mot de passe, mais pas tout à fait, qu'elle le dit un nombre de fois un peu trop grand, etc. Lumière versus luciole, bon. La fleur qu'elle écrase, etc. Donc on a cette double rencontre à la fois amoureuse et à la fois comment dire, d'action, de résistance, mais en même temps indiquer quelque chose qui va devenir très important dans la suite du récit, à savoir le fait que quand on fait des actions de résistance, elles peuvent rater, et même le plus souvent, elles ratent. que plus de fois qu'elle ne rate pas. Mais ça, je vais y revenir, mais peut-être juste sur l'incroyable liberté formelle et même une forme, enfin, je ne sais pas pour vous, mais une forme de bizarrerie. Il y a quelque chose de saisissant dans la composition visuelle des plans et qui, peut-être, peut être rattaché à une tradition photographique, pour le coup soviétique, et notamment, enfin, constructiviste, disons, et notamment le travail d'Alexander Rodchenko, le photographe, alors qui, plutôt un travail à la fin des années 20, hein, c'est plutôt la génération d'avant Géliaskova, où souvent il y a des plongées, j'allais dire des plongées qui ne sont pas nécessaires ou qui sont inhabituelles par rapport au caractère quotidien de ce qu'il filme. Bon, je vous ai amené quelques exemples, il est plus connu celui-là, ce portrait de la jeune fille. L'autre aspect formel qui me marque dans cette espèce de force formelle de cette séquence, c'est la fin, c'est-à-dire le côté ralenti, raréfié du son, mais aussi ralenti une fois qu'ils sont face à face. Et par contre, ils se mettent à courir. Et l'accélération est reprise par ce qu'on appelle un pont sonore, c'est-à-dire un fondu enchaîné sonore, où on entend déjà la suite, c'est-à-dire la souris, celui qui surnomme la souris, le blond qui est là sur sa charrette, j'allais dire son char, et qui aussi d'ailleurs fait référence au western et qui arrive et tous les deux se mettent à courir. C'est-à-dire que, un peu comme dans Monsieur Smith d'ailleurs, est donnée d'emblée aussi l'idée que c'est la jeunesse, c'est aussi leur jeunesse, qui implique une forme de maladresse, mais jeunesse qui va pouvoir revitaliser l'action et faire qu'ils vont pouvoir résister, me semble-t-il. Donc il y a à la fois voilà, ce côté fougueux de cette accélération finale, mais aussi peut-être le côté irréfléchi de leur déplacement et de leur mouvement. Alors je disais que ça programmait tout le reste du film, effectivement, parce que d'emblée, cette première mise en contact des deux résistants, la fleur qui est écrasée, la nervosité de la fille, etc., fait que on se dit que, en fait, les sabotages et tout ça, c'est pas forcément des actions qui ont porté leurs fruits. En tout cas, voilà, ce sont des actions qui sont parfois un peu pétard mouillé, et on va voir ça, bien sûr, dans la séquence suivante, dans la séquence où ils placent véritablement la bombe, et même s'ils ont répété, et que nous, on a eu cette séquence de répétition, eh bien, la bombe n'explose pas. Alors, cette séquence où ils préparent la pose de la bombe, je trouve avec les boîtes de conserve, etc., il y a quelque chose là aussi d'enfantin. Alors c'est peut-être parce qu'on a parlé de Monsieur Smith avant que je me... Mais bien sûr, le point commun, c'est la jeunesse des héros, enfin de ce petit groupe. Et donc, on a quand même un peu l'impression qu'il y a un côté jeu dans cette répétition. En tout cas, au début, quand ils placent les boîtes de conserve. Mais bien sûr, c'est un peu comme dans To Be or Not to Be de Lubitsch, si vous avez vu. Ce film, c'est sur une troupe d'acteurs, de petits acteurs rigolos mais pas très bons pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne et qui en fait vont être amenés à vraiment participer à la grande histoire et à vraiment devenir des résistants. Et ils sont un peu brinque-ballants, c'est un peu des bras cassés, mais c'est le grand rôle de leur vie. Et là, ils vont jouer vrai. Là, ils vont vraiment réussir à être de grands acteurs parce qu'ils comprennent qu'il faut se hausser au niveau de l'histoire. Donc il y a un peu cette idée que ce sont encore des enfants, d'une certaine façon, mais que l'histoire arrivant à cette période-là, et bah, tant pis, ils vont se comporter comme des adultes, ils vont manier des armes, etc., avec les ratés qui vont avec ça. Alors, sur l'idée qu'ils sont tous un peu friables, ces différents personnages, c'est parfois difficile de se souvenir de leur nom, d'autant que celui qui s'appelle Mladen, le chef, en fait, c'est, moi, ce que je comprends, c'est que c'est son nom de famille, Mladen, il s'appelle Andrei, celui qui a la moustache. On voit qu'il est un peu plus vieux que les autres, qu'il est marié, etc. Finalement, même lui, dont on voit qu'il mène les actions, on apprend qu'il a... il a faibli dans le sens où il n'a pas pu vraiment se détacher momentanément de sa femme, et donc il prend des risques, et pour elle et pour le groupe, en restant en fait relié à elle. Autre raté, entre guillemets, enfin autre faille tout à fait humaine, par exemple, Vesca et Dimo, vous vous souvenez, ils improvisent une action, d'une certaine façon. Elle parle d'aller à l'opéra voir le ballet, et tout à coup, lui transforme ça en action politique, sauf que vous vous souvenez qu'une fois qu'ils y sont, lui est tellement fasciné par le spectacle, et sans doute aussi par le type particulier de spectacle, à savoir ce jeune couple, alors que lui-même, enfin eux-mêmes sont un couple, disons, en formation. Donc on a l'impression que le pas de deux, c'est une sorte d'idéalisation de projection comme ça, de la possibilité du couple. En tout cas, il a une émotion qui est peut-être de cet ordre, mais qui est aussi une émotion esthétique, et qui fait qu'il en oublie de lâcher les tracts. Voilà, donc c'est ce côté très humain, trop humain et friable caractérise tout leur comportement tout au long du film, y compris donc l'idée que peut-être qu'une action politique peut être entravée par une émotion esthétique. Je trouve ça assez beau, quoi, d'être emporté tellement par le spectacle qu'il en oublie d'agir. Évidemment, ça, c'est ce qui sous-tend tout le film, parce qu'ils ont, dû à leur jeune âge, cette espèce de pulsion de vie, et en même temps, donc historiquement, ce devoir de détruire, de tuer, etc. Et je trouve que ça, c'est assez bien montré à l'intérieur d'une même séquence, qui est, alors, deux choses, enfin, plusieurs moments, mais moi, il y a souvent dans les films, je me souviens de ce qui me paraît un peu bizarre, de ce qui est de l'ordre de l'accro, de quelque chose qui nous fait un peu sursauter ou qu'on se demande si on a bien vu, si on a bien entendu, etc. Et j'ai trouvé que cette question de se couper de ses aspirations de jeunesse, c'est-à-dire principalement d'aimer, ou bien au contraire s'y laisser aller, cette tension là elle était particulièrement rendue dans la forme bizarroïde de cette séquence. Je ne sais pas si vous voyez à quelle séquence je fais allusion, où les deux hommes, c'est-à-dire Dimo et Mladen, parlent de cette question de se couper ou non les liens avec, en l'occurrence, lui, sa femme. Il explique la difficulté que c'est de se couper des gens qu'on aime quand on fait des actions de résistance. Donc les deux hommes qui discutent d'un côté, et de leur côté, Nadia et Vesca, donc Nadia, l'épouse de Mladen, et Vesca, qui discutent de leur côté, et le blond qui est aussi du côté des hommes. Mais vous remarquez que étrange choix de mise en scène, alors pas du tout naturaliste, en fait ils sont pas dans le même espace, mais par un faux raccord, c'est-à-dire que la partie noire du mur, en fait, elle permet de... La caméra fond un raccord, cache, masque un raccord, et on passe donc d'un lieu à l'autre, comme si c'était la même discussion du groupe. Donc en fait, c'est un choix de non-montage. On ne fait pas de coupe, en tout cas on fait semblant de ne pas faire de coupe, on relie les hommes et les femmes à l'intérieur de la même séquence, alors qu'ils sont dans deux lieux distincts. Et c'est intéressant de les relier comme ça, par cette figure de non-montage, parce que justement, ils parlent de ce que c'est que de se couper les uns des autres. Est-ce que je décris correctement cette séquence ? Est-ce que vous en êtes aperçu de ça ? J'ai pas complètement rêvé. Mais c'est un procédé qui a dû être employé, hein, qui a été employé, en tout cas après, ça nous arrive de voir des films comme ça où quelqu'un se souvient de quelque chose, et au lieu d'avoir un flashback, on a le personnage du passé, mettons la mère de quelqu'un, qui revient en vrai, je dirais, qui revient dans le champ du personnage au présent. Mais c'est plutôt une figure post-moderne que là, une figure du cinéma moderne, disons, et moderniste. Donc, clairement, elle vient du théâtre, et il y a une sorte d'abstraction un peu du fond. On a l'impression que le fond est, tout à coup, c'est plus un décor, c'est une sorte de fond un peu plus abstrait, quoi. il me semble que c'est vraiment une particularité du film, c'est cette espèce de tension entre l'élan de la jeunesse, la légèreté, les plaisanteries hein, de la souris, celui qui fait tout le temps des blagues, et vraiment quelque chose de fixe, de figé, d'immobile, de mortel, de possibilité de la mort, donc une sorte de... et très statique, quelque chose de l'ordre de la stase. Et ça, ça se voit dès la scène de préparation de la bombe, en fait. Où, alors je ne les ai pas toutes mises, mais il y a toute une série de gros plans sur les jeunes gens pendant la scène de préparation. Ces gros plans marquant, me semble-t-il, une sorte de prise de conscience qu'en fait, ils sont en train de répéter quelque chose, mais ce n'est pas un jeu, et il va y avoir un enjeu de vie ou de mort pour eux. Donc ça, ça se traduit par le fait que tout à coup, l'échelle des plans change et qu'on a presque une série de portraits. Et puis ensuite aussi, alors toujours ces plans en plongée, comme ça, assez graphiques, assez impressionnants, mais il y a aussi cette fausse mèche là, avec plus on s'en rapproche, plus alors ça fait penser au fil barbelé, hein, plus ça devient une sorte de balafre ou en tout cas quelque chose de purement graphique et à la fois très abstrait, ça devient plus qu'une ligne, voilà, quelque chose qui strie le plan, et à la fois très concret dans la prise de conscience que quelque chose de mortel est possible, il me semble. Hein. Voilà. Donc voilà, le film, c'est ça, c'est-à-dire c'est la jeunesse face à la mort. Et d'ailleurs, quand la bombe ne se déclenche pas, après, on a ce plan aussi rapproché sur le visage de Veska qui voit passer les nazis qu'ils n'ont pas tués, quoi, après. Pareil, ça se cristallise beaucoup autour d'elle. Même chose, même mouvement, me semble-t-il, dans le travail des différentes échelles de plan, dans la scène où, dans la pièce d'à côté, elle laisse celui qu'elle a éconduit avec Nadia, et elle, dans sa chambre, elle fait quelque chose de beaucoup plus sérieux que la bagatelle qu'apparemment il lui proposait, à savoir, elle coud le poison donné par Dimo, dans ses vêtements. Alors, je dis même mouvement parce que, d'abord, on se rapproche. Il y a vraiment une intimité physique hein, assez rare, du corps, de la peau de ces jeunes gens. Et on voit qu'en fait, en cousant, par le simple voilà, coudre, ça met un petit peu de temps. Le simple fait de faire cela, on a l'impression qu'elle prend conscience de quelque chose. Et la scène est assez impressionnante dans le fait qu'elle l'amène ensuite de cet intérieur quasiment suréclairé de sa chambre au toit et la sous-exposition gagne. Forcément, on est dans la nuit. Elle dira plus tard, j'habite à un immeuble où il y a toute une magnifique vue sur Sofia. Mais là, c'est pas la vue qu'on voit, c'est le contre-champ, c'est-à-dire qu'on est, on la voit, elle, avoir le dos au mur, et la caméra s'éloigne, et elle devient vraiment... Là, on la voit même plus, elle devient vraiment complètement nanifiée dans le décor. Et simplement par ce jeu sur l'échelle des plans, ce jeu sur le sombre, sur la sous-exposition, etc., me semble-t-il, restitue une sorte de vertige existentiel qu'on avait donc déjà vu dans la scène de préparation, qu'on a revu à la grille, et là qu'on voit d'une autre manière encore dans cette sorte de solitude qu'elle a. Alors elle dira qu'elle est contente d'habiter dans cet immeuble qui lui permet de voir toute la ville, mais nous, ce qu'on voit, c'est aussi une toute petite bonne femme face à, voilà, à l'histoire et à la possibilité du suicide. Alors, par rapport à ça, voilà, par rapport à cette possibilité de la mort ou du suicide, c'est pas tant donner la mort, quoique, mais en tout cas, courir le risque de mourir. Il me semble que le choix que font les personnages, et celui aussi du film, c'est celui de tenir le regard bien en face. Donc, c'est celui de la frontalité. Hein. Vous vous souvenez que quand Dimo apprend à tirer à Veska, il dit faut regarder bien droit, etc. Donc, il y a cette... Mais le film lui-même, à mon avis, se caractérise par sa frontalité, donc une forme aussi de franchise, de ne pas avoir peur de représenter la mort. Donc, par exemple, il y a je crois, on voit 5 personnages différents. Et au début, le type, on ne le connaît pas, mais mourir à l'écran. C'est quand même pas anodin. Elle n'hésite pas de ce point de vue. Il y a un précédent, je vous en fournis l'extrait, vous pourrez... je ne sais pas si je le passe. Bon, allez, je le passe. Il y a un précédent, je parlais de Roberto Rossellini, l'Italien qui avait donc tourné Dans Berlin dévasté, mais il a aussi tourné Rome ville ouverte, juste après-guerre, je crois que ça date de 1945, Rome ville ouverte. Et dans Rome ville ouverte, il y a une scène qui fait un peu penser à la fin de ce film-là, toute la scène qui concerne la torture. Et comment les gens montrent à un autre détenu, en l'occurrence à Vesca, quelqu'un qui torture pour l'impressionner. Alors, regardons peut-être cette scène de Rome ville ouverte où un curé résistant a été arrêté et un autre, je ne sais plus ce qu'il est comme personnage, est torturé sous ses yeux. On se continue après, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du premier tiers, on s'aperçoit que tout ça est quand même aussi un dispositif pour que le prêtre parle et que donc il voit de lui mettre devant l'autre torturé, ce qu'on retrouve à la fin de ce film-ci. Et sur cette idée de ne pas baisser la tête, enfin tant qu'on peut, quoi, et de garder le regard frontal, il me semble que ça se manifeste aussi dans ce film-ci quand Dimo, qui ne peut pas participer puisqu'il a été exclu, enfin soupçonné, qui ne peut pas participer à l'action de sabotage, la seule qui réussit, enfin l'incendie de l'entrepôt, il se met sur les cageots, là, sur le tas de cageots, et il regarde. Il est une sorte de spectateur privilégié, comme s'il participait, et comme par hasard, ensuite, il est torturé et tué donc par le feu. Donc il y a cet effet d'écho. Mais ce qui me semble intéressant dans le film, c'est que ce qui est associé à cette sorte de droiture morale, c'est justement l'amour. C'est-à-dire que c'est pas seulement vu comme une contradiction, c'est aussi vu comme la possibilité éthique, disons, de maintenir ce regard. Pourquoi ? Enfin, comment on peut, à quoi on peut dire ça ? Parce que j'ai parlé du poison qui est la possibilité du suicide et qu'elle coud dans ses vêtements. Mais en fait, il y a un autre poison et qui est cette fois intérieur au groupe. C'est le soupçon. C'est le moment, la séquence que je vous fournis en extrait si vous voulez la repasser. C'est la séquence de la forêt. Là encore, hein, abstraction, espace quasiment théâtral, on a l'impression, hein, les troncs droits comme ça dans cette forêt avec le brouillard, et on a l'impression que le brouillard figure la contagion du soupçon, qui d'ailleurs historiquement aura des manifestations évidemment dans les purges communistes successives. Hein. Donc cette idée qu'à l'intérieur d'un groupe solidaire, tout à coup, il y a le ver dans le fruit. Il y a la possibilité qu'en fait, il y ait un traître à l'intérieur. Et donc c'est ce que dit Mladen à Vesca, chaque victime soulève des doutes. Et j'aime beaucoup la réponse de la jeune fille, elle dit « chaque doute fait des victimes ». Et donc c'est ce côté cercle vicieux qui est là à souligner. Le film qui sort demain, « Deux procureurs », le film russe de Loznitsa, montre aussi cette contagion de on est toujours le suspect de quelqu'un, on est toujours soupçonné. Et ça, c'est la logique circulaire et complètement délétère de la terreur. Donc on finit par s'entre-guillotiner tous les uns les autres. Mais donc, ce qui est intéressant dans cette séquence, dans la forêt, où Mladen prend à part, d'une certaine façon, Vesca, pour lui dire « je doute de Dimo », c'est que la séquence se finit par quelque chose de beaucoup plus lyrique et de beaucoup plus, et là encore formellement, très libre. C'est-à-dire que soudain, la lettre testament, elle est lue par qui ? Elle est lue par Dimo, qui n'est pas là, mais elle est lue off par Dimo, vous vous souvenez ? Donc il est à la fois présent et absent. D'une certaine façon, il est présent par l'amour et la confiance que lui fait Vesca, et en même temps, il est presque déjà un fantôme, déjà mort. D'une certaine façon dans ce procédé, donc voilà, je trouve ça assez beau, de se tenir comme ça à la
à l'autre, face à l'autre, y compris dans une forme de, oui, de foi, je ne trouve pas d'autres mots, de confiance. Cette frontalité, d'ailleurs, elle caractérise aussi Nadia. Et là, dans quelque chose, là encore, de beaucoup moins naturaliste, qui est une sorte de regard caméra qu'on connaît dans le cinéma moderne, hein, dans tout le cinéma d'après-guerre, quand elle dit « mais en fait, moi, je sais qu'on me ment, mais je ne veux pas qu'on mente, je préfère savoir la vérité ». Donc même elle, qui n'est pas une résistante vraiment, qui ne participe pas à l'action, elle a ce type de lucidité, de frontalité. La forme la plus pure, cette frontalité, elle s'incarne dans un personnage qui paraît être un personnage secondaire, qui est plus jeune que les autres, et qui est celle qui s'appelle Tsveta, c'est-à-dire fleur, et qui est photographe amateur, et là qui est carrément une sorte d'autre alter ego de Binka Jeliaskova. C'est-à-dire qu'on croyait, et à bon droit, que l'alter ego de la cinéaste, c'est l'héroïne, c'est Veska. Et puis, en fait, quand apparaît ce personnage, qui est un peu une fillette comme ça au début, on s'aperçoit que son activité de photographe est beaucoup plus à prendre beaucoup plus au sérieux que simplement comme un loisir. Alors là encore, qu'est-ce qui fait que son regard est d'autant plus lucide? Bah, déjà le fait que... alors plusieurs choses. D'abord, elle théorise cette idée de la révélation, enfin du temps qu'il faut pour que l'émulsion, pour développer la photo. Donc cette idée que, en fait, ce qui nous apparaît en positif comme noir est peut-être blanc et inversement. Donc cette idée de la réversibilité des êtres et des apparences, c'est évidemment quelque chose qui est important en temps de guerre et en temps de résistance, en temps d'espionnage. Ça a une valeur allégorique, quoi, de comprendre qu'il ne faut pas toujours voir seulement l'apparence. Mais aussi l'autre chose qui fait qu'elle a cette activité de photographe, je vous mets James Stewart dans Fenêtre sur cour, parce que c'est évidemment du fait qu'elle n'a pas la mobilité physique des autres. Donc de toute façon, elle ne pourrait pas faire partie du groupe. Du fait qu'elle n'a pas cette capacité de mouvement, ça décuple, disons, ses capacités de vision, j'allais dire, parce que c'est pas une voyante, faut pas exagérer, mais il y a quelque chose de cet ordre. Et d'ailleurs, elle procure au film ces instantanés quasiment documentaires, alors refaits, hein, forcément, puisqu'on n'est pas à la même époque, mais sur la société bulgare et sur aussi la tartufferie, d'ailleurs, de cette société, puisque là, on voit le pope qui est en train de draguer, si je puis dire, le masque à gaz, etc. Et elle a aussi la capacité de se regarder elle-même, et de, vous vous souvenez, elle fait son autoportrait. Mais même elle, de même que les autres tombent dans le piège du soupçon avec Dimo, elle aussi est jeune, et elle aussi, elle a cet élément de ratage, puisqu'elle s'aperçoit que son activité, a priori, qui lui apportait tant de joie, comme on le voit quand elle dévale la pente, eh bien, en fait, c'est une activité qui peut être réappropriée par la police. C'est-à-dire que la photographie, c'est pas seulement documenter un instant de la vie, etc., ou dénoncer quelque chose dans la société, ça peut être aussi créer des archives, des documents de surveillance et de coercition, et elle s'en aperçoit quand le traître, quand l'infiltré, je veux dire, les conduit, lui montre la photo de Mladen, mais qui est une photo, alors là pour le coup c'est aussi un regard frontal, mais on reconnaît dans ses yeux le fait que c'est une photo de police, une sorte de mugshot, voilà. Donc voilà, et là encore, elle, regard caméra, de prise de conscience de tout ça, et puis elle se met à tout brûler. Donc voilà, je suis allée un petit peu vite, mais il me semble que ce lien entre ce qui brûle dans le sens de brûler d'amour, ou dans le sens aussi de brûler, quand elle brûle ses négatifs, et puis du feu par lequel mourra Dimo à la fin, cristallise quelque chose qui court dans tout le film, formellement, et qui est la question de la lumière, mais de la lumière... de la lumière non stable, de la lumière clignotante, de la lumière vacillante, de la lumière et donc de la lumière des lucioles vivante mais très très éphémère versus la lumière avec un grand L qui était le mot qu'elle disait au lieu de dire Luciole au début. Et je trouve que le film est quand même très, très persistant, même visuellement et graphiquement, dans le fait qu'il va maintenir ce motif du rond de lumière. Et en fait, qu'on appelle au théâtre une poursuite, c'est-à-dire ce rond de lumière qui peut suivre le personnage, qui est très circonscrit, mais qui est en même temps mobile. Et même, vous vous souvenez, quand elle joue avec la langue de poche, Fleur, il y a ce rond comme ça sur elle. Chose qu'on voyait aussi, alors je crois que vous avez pris la capture, mais je ne sais plus où, qu'on voyait aussi quand Dimo est à l'opéra. On a l'impression qu'il y a tout est noir autour de lui, mais on le voit lui, donc en une inversion de la scène et de la salle, puisque tout à coup c'est lui qu'on voit comme s'il était sur scène. Mais bien sûr, c'est accompli, l'effet de boucle est atteint quand la rencontre des deux lampes de poche la nuit, dans la scène de nuit entre Dimo et Veska, sur leurs espoirs qui ne sont pas encore douchés à ce moment-là, va se rejouer avec le survivant et la nouvelle, dont le nom Svleta, dont le nom veut dire lumineuse, quand eux-mêmes se promènent à la fin et que voilà, on comprend qu'ils vont assurer la relève. Donc voilà, j'aime bien ce côté très, très formaliste d'une certaine façon, en tout cas qui cherche dans une liberté de forme une vérité sur le côté à la fois héroïque et très fragile, très, très friable de ce petit groupe. Je vous fournis quand même en extrait, si jamais vous vouliez le revoir ou utiliser ça, le tout début du film, c'est-à-dire le fait que vous rappelle que le film commence avec une sorte de prologue et qui est très violent, puisqu'on voit ce jeune type se faire tuer de dos. On ne le connaît pas, et puis c'est suivi d'une voix off qui parle. En fait, la voix off, elle est dite par Nadia, donc la femme de Mladen, mais on la reconnaît pas, et qui parle des archives, etc. C'est-à-dire que en fait, c'est comme une stèle. Enfin, c'est comme si le film était à la mémoire de tous ces jeunes gens. Donc ça projette le film comme si tout le reste va être un grand flashback, ce qui est d'ailleurs dans le titre, dans l'imparfait du titre. Nous étions jeunes. Donc le film se pose comme une sorte de film mémoriel, mais en même temps on oublie ça après parce que on voit de très près la vie de ces jeunes gens, y compris de très près, on s'approche de leur peau, je dirais, non seulement de leurs amours, de leurs émotions, etc., de leurs peurs, mais aussi de leur peau. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Parce que le film a pu aussi surprendre, je ne sais pas. Ou peut-être certains le connaissaient, mais j'en doute un peu quand même. Non?
Merci. Oui, je ne peux pas beaucoup de choses à dire, mais c'est très graphique et organique aussi. Il y a vraiment, c'est très travaillé, je trouve, au niveau de la composition de l'image.
Oui, ce qui étonne, parce que comme c'est un film à la fois autobiographique, bon ça on ne le sait pas forcément, mais historique, on s'attend à un régime, je dirais, de fiction réaliste. Ce qu'il est en un sens. Mais en fait, dès le début, il programme des décrochages poétique, lyrique, y compris dans le montage, la récurrence de ce vol, de cet envol d'oiseaux, etc., qui fait que c'est presque, alors parfois c'est presque un peu agressif cette forme, parce qu'on a envie d'être plus dans le récit, ou à l'inverse, on trouve que c'est pas abouti, mais elle reste dans cet entre-deux qui fait que, enfin, c'est pas vraiment un entre-deux, c'est les deux en même temps.
Parfois, on sait pas trop justement où on est. Enfin, ouais. Voilà, dans quel espace fictif on est, ouais, ou réel on est. Il y a ce mélange comme ça qui est très présent.
Oui, de même qu'il y a de la psychologie, et on est presque étonné quand la psychologie surgit, je pense, à deux moments. D'abord le moment, alors là aussi assez genré, hein, l'histoire de la fleur et du journal, c'était déjà pas mal, mais où elle voit cette femme élégante, entre guillemets, en tout cas avec un foulard noué d'une certaine façon. Et on voit que pour séduire Dimo, elle va nouer, elle, son foulard de la même façon. Et on se dit, le film va dans le détail sur cet acte complètement léger. Alors qu'on parle de résistants, on parle de gens qui essayent d'accomplir quelque chose qui va changer l'histoire. On est un peu dérouté en fait du temps qui est consacré à ça. De même que quand il y a le face à face, parce que ça ressemble aussi à un mini duel. C'est encore un autre écho du duel du début de la rencontre entre Tsveta, Fleur, et Veska, qui la voit comme une sorte de rivale. Enfin, l'une et l'autre se voient un peu comme des rivales. On n'avait pas pensé que la jalousie comme ça entre ces deux jeunes filles allait s'inviter dans le film, quoi. Parce qu'il se passe des choses plus inquiétantes, puisque de son point de vue, de son poste d'observation, quand même, la première chose qu'elle voit, Fleur, c'est Dimo qui se fait tabasser par son père. C'est un acte violent. Donc, même si elle n'a pas compris tout, si elle n'est pas au courant, si elle est pas, et qu'elle va au fur et à mesure en développant ses photos, puis en comprenant que ses photos peuvent mettre en péril ses amis, voilà, y a un processus de lucidité et d'élucidation. Mais quand même, je trouve qu'on est un peu étonné qu'elles en soient, voilà, et que le film passe du temps sur cette espèce de psychologie adolescente, d'une certaine façon. Et puis, il y a une dimension dans ce côté tension vers l'abstraction, dont j'ai montré que je pense qu'il y a une tradition tout simplement visuelle, photographique, etc. Mais au fond, il y a aussi une tradition théâtrale du théâtre, disons, de l'articulation avant-après-guerre, quoi, du théâtre des années 30 et des années 40 dans toute l'Europe, à savoir une forme de modernisme qui fait fi du détail un peu bourgeois, quoi, des meubles, de la réalité comme ça, et qui simplifie, qui stylise le décor pour arriver à des situations plus existentielles, des échanges, voilà, dans plein de pays d'ailleurs.
On retrouve un peu dans le cinéma d'aujourd'hui, enfin, je pense notamment à Alice Rohrwacher, dans Les Merveilles, par exemple, où elle aussi vient du théâtre, et se réfère aussi au néo-réalisme, en quelque sorte. Et donc, il y a du montage un peu comme ça, dans ces plans qui ne sont pas coupés, en fait, des fausses coupes, mais qui réunissent un même lieu, un même espace, un même temps, alors qu'en théorie, on n'est pas dans le même lieu, le même espace et le même temps.
Oui, voilà. C'est intéressant de le comparer à des films contemporains, effectivement, de rapprocher de films contemporains, parce que je pense que... Bon, après, c'est vous les enseignants, hein, mais... comment dire ? On parle aussi des autres films quand on parle d'un film. Comment dire ? On parle aussi du cinéma, alors pas seulement dans les grandes figures ou dans les grands éléments la composition, le montage, la musique, le son, etc. Bien sûr qu'on on remet ça en jeu à chaque film. Mais quand il y a ce type de... j'allais dire d'effet, mais effet, ce serait négatif. Dans ce type de travail formel, particulièrement stylisé, comme ça, qui décroche du réalisme, c'est important de les pointer. Parce que je pense qu'ils sont perçus, mais soit ils sont tout de suite rejetés, parce qu'ils sont trop déroutants et trop bizarroïdes, soit voilà. Donc c'est important aussi de les nommer et de voir que il y en a d'autres manifestations ailleurs, à d'autres temps et par d'autres cinéastes. Et à la limite, qu'on n'est pas obligé de choisir entre un régime de récit réaliste, psychologique, des personnages et tout, leur intimité amoureuse, hein, et quelque chose de l'ordre du poétique, du geste poétique. Et que l'histoire avec un grand H, elle n'est pas assignée à ce réalisme, elle n'est même pas assignée au documentaire. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est quand même la très grande liberté de cette femme cinéaste. Parce qu'il y a des choses qui ressemblent à du documentaire, d'autres qui ressemblent à de l'autobiographie, le teen movie, une sorte de teen movie à cette époque, le film historique, le film militant, le film qui héroïserait vraiment, qui serait une forme de propagande, on pourrait dire. Mais elle reste infra, voilà. Mais elle ne choisit pas entre toutes ces formes, et même à l'intérieur d'une même séquence, il y a ces décrochages, comme la séquence dont je parlais de la lettre. Où en fait on est assez surpris, me semble-t-il, qu'elle se finisse comme ça. On a l'impression que ça va rester dans le régime de il a trahi, donc il est exclu. Bon, Très bien, ça c'est factuel. De même qu'on est surpris, me semble-t-il, après ce décrochage lyrique, disons, de la lettre, on est surpris de voir Vesca aller voir Dimo et lui reprendre. Alors je crois que c'est traduit comme le gaz, mais en fait c'est le, je pense que c'est le pétrole ou enfin l'essence quoi pour l'incendie. Donc elle y va quand même, elle suit quand même les instructions de Mladen. Donc en fait tout est toujours plus complexe malgré tout que ce qu'on croyait, y compris le choix qu'elle fait. C'est aussi un choix moral d'une certaine façon. C'est-à-dire elle ne croit absolument pas à la trahison de Dimo. Me semble-t-il, elle l'aime et elle comprend, enfin elle est absolument persuadée qu'il n'a pas trahi, et de fait nous spectateurs on le sait qu'il n'a pas trahi, mais en même temps elle comprend que l'avis du groupe c'est la prudence et que pour que l'action soit menée à bien il faut mettre toutes les chances de son côté et au cas où il serait quand même traître, voilà. Et donc elle le fait, et donc elle, à mon avis pour nous spectateurs elle ne perd pas sa, justement sa droiture morale en faisant ça. Mais c'est surprenant. Donc il y a des surprises à l'intérieur de chaque séquence et il y a des surprises dans parfois la brutalité de l'articulation d'une séquence à une autre, il me semble. Et parfois, comment dire, parfois on fait violence au spectateur justement en ne coupant pas alors qu'il s'attend à ce qu'on coupe et que ce soit deux espaces. Donc ce film, il permet aussi, je dirais, de montrer qu'il n'y a rien, il n'y a aucune obligation dogmatique, enfin, qu'il n'y a pas une chose associée à un mouvement de caméra. Donc un mouvement panoramique sur la ville, oui, d'accord, ça nous présente où c'est, mais ça peut aussi vouloir dire complètement autre chose, et que c'est un western, et que c'est une fille qui avance vers son promis, donc c'est aussi une sorte de destin amoureux, etc. Donc il n'y a pas une traduction de tel geste formel. Il n'y a pas une seule traduction de tel geste formel. Donc je pense qu'on peut utiliser des films comme ça pour faire comprendre ça, même sur d'autres films.
Ouais. La caméra à l'école aussi, c'est vraiment très, 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 très moderne, en fait. Sans...
Oui, alors... exactement, est-ce que la caméra est à l'épaule? Je suis en train de... Ouais. Alors justement à cet égard, et peut-être on finira là-dessus, si je sais pas s'il faut finir à cette heure-là. Simplement vous dire que je vous mets aussi à disposition, bon, outre ce que vous voyez, c'est-à-dire différentes scènes du film dont j'ai parlé, si jamais vous voulez les revoir ou les réutiliser. Mais un extrait d'un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Quand passent les cigognes de 1957 de Mikhail Kalatazov, avec un chef opérateur extrêmement virtuose. Ça se passe aussi pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Russie, et c'est aussi sur un jeune couple. Et d'ailleurs, l'actrice ressemble un peu à celle qui joue Vesca. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette séquence, qui est un peu une séquence connue, je pense, dans le cinéma soviétique, quoi, c'est justement la virtuosité de la mobilité de la caméra. C'est une scène de foule où la fiancée elle s'est disputée avec son amant, or il est mobilisé, or il reçoit l'ordre de partir juste pendant le temps où ils se sont disputés. Et donc en fait, quand elle apprend ça, elle essaye d'aller lui dire au revoir, le moment où les troupes partent, et puis en fait elle est bloquée par la foule. Donc c'est beaucoup plus un mélodrame quand passent les cigognes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a du coup une scène de foule extraordinaire, parce que la caméra de ce chef opérateur, qui a beaucoup inspiré le chef opérateur de Binka Djeliaskova, qui lui s'appelle Vassil Olyotchev, eh bien, le chef opérateur de Quand passent les cigognes, Ourousevski, il est aussi connu pour ça, c'est-à-dire pour le fait de pouvoir faire soit des plans séquences, soit en tout cas quelque chose des mouvements complètement virtuoses, ce qui fait que dans cette séquence, on la voit, elle, complètement angoissée de ne pas réussir à aller lui faire signe, mais on voit aussi une espèce de série de portraits de gens qui sont là, dans la foule, pour dire au revoir à ceux qui vont partir. Donc oui, le modernisme dans le sens théâtral est radical dans le geste, mais en même temps, il y a une tradition visuelle de ça, de la mobilité de la caméra, qui est aussi contre cette stase, cette fixité, ce qui guette les jeunes gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un film sur la peur de la mort, sur la jeunesse sacrifiée, etc., et faire des plans plombés. Il faut avoir du contrepoint, quoi. Donc tout le travail, c'est ça aussi, de la légèreté, de la mobilité, me semble-t-il. Bon, bah, je vous remercie pour votre attention.
Merci, Charlotte.